Barbra Streisand.
Libre Radio, la radio qui bouge les lignes et qui renverse les situations. Podcast, newsletter, et pire encore sur www.libradio.org.
Voilà, donc nous sommes en direct et en public depuis La Tortue. La Tortue, c'est une maison collective sise au 154 route de Malagnoux à Genève, dans la périphérie de Genève, dans les bois, dans une très très belle atmosphère d'ailleurs, puisque c'est la journée de l'anniversaire, le deuxième jour de l'anniversaire de Moins, le journal des décroissants suisses. Alors ça tombe bien, nous recevons Bruno Clémentin. Bonjour à toi.
Bonjour, bonjour
merci
à tous.
Nous consacrer un petit moment, parce que là tu vas bientôt repartir en fait.
Oui.
Alors toi-même, tu es un parmi les fondateurs du journal des décroissants.
Oui.
En France.
Oui.
Alors quand est-ce que ce journal est né et présente-toi en quelques mots.
Alors nous avons fondé ce journal en 2004 avec Vincent Chenet, donc Vincent Chenet et moi-même. Et il y avait un petit groupe autour de nous. Tout le monde n'est pas resté, mais c'était une volonté d'aller à la racine, à la radicalisation de l'écologie politique.
Très bien. Donc ça veut dire que vous revendiquez justement de l'écologie politique, de figures tutélaires telles que Ivan Illich, justement on en parlait tout à l'heure, et qui d'autre d'ailleurs? Y a-t-il d'autres comme ça, d'autres figures qui vous habitent au moment où vous créez ce journal?
Oui, avec Illich, il y a évidemment Jacques Ellul. Il y a Bernard Charbonneau, pour les, on va dire, un peu les plus connus dans ceux qui ont travaillé sur l'écologie politique. Et puis il y a le Roumain Nicolas Georgescu-Rogan, qui a écrit il y a une trentaine d'années, c'est-à-dire un peu plus même au tournant des années 70, qui a démontré que l'économie ne se souciait pas de la ressource, c'est-à-dire que la ressource utilisée en économie n'est pas achetée. Quand on prend du pétrole, le premier qui prend du pétrole, il ne l'achète pas. Et donc, l'économie ne se soucie pas de la renouvelabilité, si on peut dire, de la ressource primaire. Alors, après, en économie, on étudie, on calcule tout, mais personne n'a jamais mis de l'argent de côté pour renouveler le pétrole. D'une part, parce que ce n'est pas possible, mais d'autre part, parce que tout le monde a pensé, ben non, la nature produit assez de choses, et on sait maintenant qu'on en arrive à ce qu'on épuise aux alentours du mois d'août la capacité de renouvellement de ce qu'on utilise sur Terre, sans parler de la problématique des déchets.
Très bien. On peut dire qu'on peut faire le même raisonnement concernant le nucléaire.
Oh ben là, qui,
c'est encore pire, puisque là, on n'a même pas calculé les démantèlements qui vont approcher.
Absolument. Ouais.
Est-ce à dire que le problème est un problème structurel? Est-ce qu'il est induit par le capitalisme, par la manière dont on est organisé? Est-ce là le constat que vous avez fait au moment où vous créez ce journal?
Oui, induit par le capitalisme, on rejoint là des gens qui luttent contre le capitalisme depuis très longtemps. Mais il faut le voir aussi par la consommation. C'est-à-dire que si, comme a dit un grand philosophe de chez nous, Coluche, toutes ces saloperies, si on ne les achetait pas, elles ne se vendraient pas. Donc il y a une part, ça ne veut pas dire que l'individu n'est pas lui-même responsable, parce qu'il est obligé de faire avec la société qu'il trouve, et qu'il y a donc bien une structure d'accumulation capitaliste qui a quasiment tout recouvert, et qui, elle, ne changera pas. Les gens qui font ça et qui en vivent, quels que soient les milliards qu'ils accumulent, on ne voit pas ce qui pourrait les faire changer. Donc ce qu'ils veulent bien, c'est redistribuer des miettes et faire semblant d'être des gentils écolos aussi. Mais oui, il y a bien cette structure de production, notamment thermo-industrielle, qui est littéralement en train de bouffer la planète.
Alors justement, que contient le journal La Décroissance? Comment paraît-il? Quand paraît-il?
Il est mensuel. Pendant 3 ans, il a été bimestriel. Et puis en 2007, on est passé mensuel. Il y a 10 numéros par an. Et nous avons en France 3000 abonnés. En fait, on en a à peu près 200 aussi dans une dizaine de pays. Mais il y a très peu d'étrangers. Ce sont souvent des Français expatriés. On a une quarantaine d'abonnés en Suisse. On a une trentaine d'abonnés en Belgique. Et on vend en France tous les mois environ 8000 exemplaires.
D'accord. Et alors, j'imagine que c'est un gros travail, parce que c'est pas, tu vas dire, un mensuel, mais il faut dire que c'est un grand format avec plein de petites lettres, pas de publicité. Non, mais je veux dire, pour expliquer un petit peu le format aux personnes qui ne le voient pas, c'est un gros, gros travail. Comment est formée l'équipe de rédaction?
Eh bien, je dirais, comme on a vu avec nos collègues et amis de Moins et du journal belge Kairos, nous avons des comités rédactionnels. Alors, chez nous, le comité rédactionnel, proprement dit, n'a que 4 ou 5 personnes, parce que les gens sont extrêmement dispersés malheureusement en France à l'heure actuelle. Donc on a des contributeurs qui habitent à Paris, qui habitent à Toulouse, qui habitent à Montpellier, qui habitent en Bretagne. On a un dessinateur qui est aux États-Unis. On a un autre dessinateur qui est à Albi. Notre secrétaire de rédaction est à Vierzon. Nous, on est à Lyon. Moi, j'habite Saint-Étienne. Mais couramment, il y a 10 à 12 personnes au minimum qui participent au journal, plus les illustrateurs. Et du coup, on a comme un tour de parole général à la conclusion d'un numéro. Et ensuite, le comité de rédaction, de là qui se trouve plutôt restreint, en fait, alimente surface après surface les pages du journal. Et après, c'est un travail journalistique qui est fait, d'écriture, réécriture, demande de chronique, avec un thème, avec des perspectives et une ligne éditoriale, évidemment. Donc là, on a vu qu'on n'était pas... On n'était pas tellement différent de, par exemple, de moins, mais on n'a pas l'occasion, malheureusement, de se réunir aussi souvent pour avoir une vraie collégialité de rédaction.
Ouais. Alors, parlons des contenus maintenant. Y a-t-il des enquêtes? Est-ce que ça fonctionne avec des dossiers? Il y a des dossiers à chaque fois différents. Et puis, comment est-ce que vous arrêtez ces choix-là sur un dossier tel et tel, le nucléaire, ou je ne sais pas?
Alors, les enquêtes, c'est très compliqué parce que ça consomme des personnes et ça veut dire aussi des moyens, et des moyens pour payer ces personnes. Donc on a une rubrique qui s'appelle « Portrait de la simplicité volontaire » qui est tous les mois, où on cherche à trouver donc dans toute la France des gens qui vivent simplement et en montrant que c'est pas une punition. Donc ça, c'est vraiment... et qui sont contents de le faire. Il peut y avoir des familles entières. On trouve des gens qui habitent dans les villes et autres. Donc ça, c'est vraiment une enquête. C'est un travail journalistique. On envoie quelqu'un qui va discuter toute une journée avec une personne. Sinon, les dossiers, soit à partir d'un livre, soit à partir de personnes que l'on peut connaître, qui soient universitaires ou autres, mais engagées dans les discussions, et qui nous dit, on a entendu parler de ça, de cette histoire-là, et là, on essaye de trouver quelqu'un dont c'est le sujet, et qui va le rédiger. Alors, à la manière, on revient à la ligne éditoriale, ça nous intéresse que si ça va dans notre ligne éditoriale, mais on veut aussi que ça soit compréhensible par le lecteur. Donc on demande, quand ce sont des amis universitaires ou autres, de bien vouloir redescendre un peu de leur Olympe, voilà, et d'écrire que chacun comprenne. Et c'est pas pour dévaloriser, c'est qu'un journal, c'est au ras du trottoir, ça se vend en kiosque, et tout un chacun, comme on le fait pour que tout un chacun puisse l'acheter, même s'ils ne le font pas, mais qui puissent le lire aussi. Sans se soucier, c'est pas une question de niveau d'intelligence ou autre, c'est que, par exemple, quand on parle du nucléaire, alors après, il y a les pour et il y a les contre, mais il peut y avoir une discussion technique aussi.
Absolument.
Et on peut démontrer que l'horreur nucléaire, ben, elle s'arrêtera jamais, par exemple. Et on va pas simplement dire, ben voilà, c'est l'horreur, c'est nucléaire. On va dire, non, voilà, le plutonium, il y a une demi-vie, puis il y a une vie entière, et puis ça monte dans la chaîne alimentaire, et puis ça salit l'eau, ça pourrit l'air. En fait. Donc il faut quand même des sources, à chaque fois, il faut des sources qu'on peut qualifier d'expertise.
Absolument. C'était le sens de ma prochaine question, c'était à qui s'adresse le journal? À tout le monde, je crois que tu as déjà répondu.
On essaye, hein. on aimerait avoir 100 000 lecteurs.
Ça va venir. Justement, alors depuis 1984, au moment où vous créez ce journal-là, comment est-ce qu'il est...
2004.
Ok, j'ai dit.
Ouais, 1984. Orwell.
Orwell. C'est parce qu'on parlait d'Orwell tout à l'heure. Pardon, oui. Voilà, on avait une discussion orwellienne tout à l'heure. Alors oui, depuis 2004, est-ce que toi, tu as déjà senti un impact de ce journal-là, ou à tout le moins une évolution des pensées par rapport justement aux sujets qui sont les sujets centraux du journal La Décroissance?
C'est difficile. On peut dire qu'on a un vrai succès d'estime, c'est que toute la classe politique ne veut pas de la décroissance. C'est-à-dire qu'au début, on n'était même pas considérés, on était que des écolos comme les autres. Dans le système de distribution en France des journaux, pratiquement n'importe qui peut faire un journal, donc ça, c'est pas tellement la discussion. C'était goguenard, c'était... Mais maintenant, ce sont des vrais... pas du tout des empêchements, mais on entend régulièrement, systématiquement, citer le mot décroissance par presque toute la sphère politico-journalistique. Et les gens disent, on n'en veut pas. Mais on n'a pas vraiment... on n'a pas vraiment avancé... En 10 ans ou 15 ans, on le voit avec nos amis de moins ici en Suisse et avec Kairos, ça reste... On comprend que c'est une violence qui est faite à beaucoup de gens parce qu'on leur dit, vous ne pourrez pas continuer à vivre comme ça. Mmh. Et nous, on n'a pas choisi on n'a pas choisi de caresser les gens dans le sens du poil, comme on dit. On tape sur tout ce qui bouge. le développement durable, les politiques écologistes, les Verts et autres qui n'ont pas réussi, tous les éco-tartuffes. Donc évidemment, ça amène un côté qui est pas... on n'est pas des gentils, quoi. Mais ce qu'on dit, hein, confronté à l'horreur du monde, anti-nucléaire, c'est négatif, anti-raciste, c'est négatif, anti-colonial, c'est négatif. Voilà, on est que des gens négatifs, on est contre les horreurs. Oui, on est des négatifs des horreurs, quoi.
Ouais. Et puis j'imagine que ça va être compliqué de dire, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement d'urgences, il y a tellement de sujets qu'il faudrait immédiatement analyser et puis déconstruire, qu'on ne sait pas comment faire pour arriver à tout, oui. À tout joindre, j'imagine. Hein.
Oui.
Qui sont vos alliés naturels, les partenaires, les gens qui vous, les adjuvants, les personnes qui vous soutiennent ou les personnes avec lesquelles vous travaillez en particulier?
Alors, on a retrouvé, si on peut dire, des universitaires et des gens qui écrivent, des essayistes, des professeurs. Ça, c'est sur la partie des gens dont on peut dire que c'est le métier. Très peu de journalistes, très peu de gens du monde du journalisme. Des écolos au sens vraiment très large, hein, des écolos de toute nature. Et mais il n'y en a pas beaucoup quand même, parce sur l'écologie, l'écologie proprement dite, à part du côté des naturalistes et des environnementalistes, il n'y a pas un fort un corpus d'écrits ou de théorisation de l'écologie en dehors du côté environnemental. Du côté d'économie, on a très peu de choses. Du côté social, on a très peu de choses. Alain Accardo était un des collaborateurs de Pierre Bourdieu, par exemple. Comme on pourrait dire vraiment ami naturel maintenant, du coup, on a Le Monde diplomatique, qui est à peu près le seul journal qui a bien voulu d'abord nous reconnaître comme étant un vrai journal, même à notre niveau. Hein, eux, ils sont un multiple de 100, hein, quasiment. Oui. Mais voilà, c'est quand même complexe. Hein.
C'est quand même complexe, ouais. Oui. Et alors justement, la question qui va avec, c'est comment justement sortir du sérail, comment arriver à toucher des populations qui, naturellement, ne se poseraient pas à cette question-là. Je pense à toutes les personnes qui, de manière extrêmement sincère, sont aliénées d'une certaine manière et qui donc n'ont pas idée des enjeux qui finalement se matérialisent et que vous dénoncez au travers du journal. Comment est-ce qu'on arriverait, selon toi, à sortir justement de ce sérail ?
Il faudrait qu'on soit plus, qu'il y ait plus de gens qui osent comme nous faire un journal. Et on était vraiment, d'abord quand les gens, le groupe de Yvan et puis tous les autres, Alexia et autres qui ont fait le journal moins, la première chose qu'on leur a dit, on est jaloux, on aurait dû trouver le mot avant vous. Parce que là c'est pareil, Cairo c'est un peu différent, nos amis belges, parce que le nom en lui-même ne rapporte à la mythologie grecque, donc c'est un peu plus compliqué. Mm-hmm. Mais on a dit là moins c'est clair, moins ne sera jamais récupéré. On peut faire comme on veut, c'est pour ça qu'on a choisi la décroissance. Il y a des gens qui essaieront de récupérer, tout système tend à récupérer tous ces extrêmes. Mais moins, c'est moins. Mais ils ont peut-être une manière plus, plus sympathique et autre. Nous, on aimerait avoir de la concurrence en France, la concurrence intellectuelle, s'entend, dans ce domaine-là. Et on ne l'a pas, et on est très étonné. Ouais. On est très étonné qu'on soit les seuls à avoir osé se lancer dans ce genre d'aventure. Parce que, et là je peux le dire, mais aussi bien en Suisse qu'en France, imprimer un journal, c'est pas cher, c'est pas ça qui est cher. Ce qui coûte cher, c'est le temps qu'on y consacre, et donc la quantité de personnes pour lesquelles on pourrait dégager un alimentaire qui ferait ça à temps complet. Quoi.
Mmh, absolument. Quels sont vos défis à la décroissance, au journal à la décroissance à l'aune du 21e siècle? On est en France en particulier dans une situation extrêmement délicate, on peut dire, un moment charnière de l'histoire avec ce nouveau président, avec des lignes qui ont bougé et qui continuent de bouger, avec encerclé dans un monde qui est là aussi où on voit que la géopolitique est pour le moins trouble. Alors voilà, quels sont les défis que vous, à la décroissance, vous pointez à l'horizon?
Durer aussi longtemps que le capitalisme pour en voir la fin.
C'est une jolie formule, c'est on salue.
Non, sinon, c'est à moitié une blague, parce que là, vraiment, on est quand même, on est dans la survie au sens de la petite entreprise, quoi.
D'accord.
Parce que,
ouais.
Du coup, on a réussi à salarier, même si c'est au SMIC, mais on salarie une petite équipe de base. On paye correctement tous ceux qui vivent de ça, donc on ne paye pas les universitaires ni autres. Donc, on a une économie qui est très tendue. On a un, deux ou trois journaux devant nous, on n'a pas plus. Mm. Et les perspectives, bah, on aimerait que plus de gens, quand je dis on aimerait plus de lecteurs, oui, mais on aimerait surtout que plus de gens, notamment ceux qui pensent qu'ils réfléchissent en écologie, comprennent cette histoire des limites. Que c'est tout simplement pas possible, ça ne passe pas. Et en même temps, on ne le voit pas. On n'a pas de compteur de pollution, on n'a pas de compteur GGR sur soi, on n'a pas... Donc, chacun dit, ouais, c'est bien, je vais faire mon petit jardin, je vais recycler, mais il n'y a pas de... Ça passe par une volonté collective et politique, c'est pas simplement les petits gestes individuels. C'est aussi pour ça qu'on se moque un peu des colibris ou autres, même si on reconnaît que toute personne qui essaye de faire ça bien, mais voilà, ça suffit pas, quoi.
Non,
c'est pour éteindre l'incendie, ouais. C'est pas des gouttes d'eau, c'est des camions citernes entiers.
Tout à fait. Puis comme tu l'as dit, c'est un niveau structurel, un niveau
bien
industriel.
Bien sûr. Ouais. Donc on essaye de durer, on essaye de continuer.
Eh bien, nous, on va en tout cas. Dans ce sens-là également, vous encourager à le faire. Bruno Clémentin, je te remercie beaucoup de nous avoir consacré quelques minutes. Encore deux petites questions avant qu'on aille à la causerie. Le site internet, et de quoi auriez-vous besoin, de quel soutien? On peut regarder sur le journal directement ou alors, oui, les gens en passant par un moteur de recherche?
Le site internet n'est qu'une vitrine. On ne publie rien sur internet. D'accord. Ça, c'est une volonté de privilégier la presse papier parce qu'il y a des métiers humains derrière. Il y a de la rencontre. On peut lire un journal même s'il n'y a plus d'électricité. Débat qu'on a eu. Donc on privilégie vraiment la presse papier. Mais si on tape la croissance sur internet, on arrivera sur notre site, on peut récupérer un bulletin d'abonnement, et sinon donc on aura l'adresse et autres, donc ça c'est, et sinon bah voilà, c'est aller acheter un journal en kiosque, hein, même en Suisse, hein, il est vendu en Suisse, ouais. Et puis voir s'il y a intérêt, mais ou au moins que l'objet du journal devienne un objet de débat, quoi.
Absolument.
Et pour les Suisses, bah, de lire et d'acheter moins.
Exactement. Ben merci beaucoup Bruno Clémentin. Bon courage à toi et à toute l'équipe de La Décroissance.
Merci à vous.
Avec plaisir. Voilà, alors nous, on va se quitter quelques instants avec une petite pause musicale, puisque nous allons un petit peu nous organiser ici depuis La Tortue, en direct et en public, où les causeries vont débuter sous peu, dans quelques instants. Et puis, on va récupérer une adresse mail. Voilà, hop, pour pouvoir communiquer le podcast. Merci, Ethiopia. Nous allons donc capter ces palabres qui vont avoir cours dans quelques instants ici à La Tortue. Et puis en même temps, nous allons continuer à faire de la radio. Tout à l'heure, nous allons parler médecine douce, vaccin. Nous allons parler également d'une communauté écologiste au Mexique. Ça, c'est pour les sujets vraiment qui vont venir tout soudain. D'ici là, quelques minutes avec une petite pause musicale. On commence avec une magnifique chanson d'Ishvoué. C'est la chanson du Bund juif, dont on reparlera un petit peu plus loin à l'occasion de la sortie d'un livre très intéressant en ce qui concerne le Bund, donc les résistants du ghetto de Varsovie en 45. C'est parti.
Alle von seinen zu seht und zu spreit, zusammen, zusammen, die von sie's gerät. Sie flattert von Zorn, von Blut ist sie reit. A Schwue, auf Leben und Deut. Brüder und Schwester von Arbeit und Neut, alle von seinen zu seht und sie spreit zusammen, zusammen, die von sie's gerät. Sie flattert von Zorn, vom Blut ist sie reit. A Schwur, auf Leben und Tod. Himmel und Erd wird uns aus Herren, jedes wird sein, die wichtige Sterren. A Schwur, a Schwur, a Schwur von Tränen, mir schwören, hat Reinheit und Grenzen zum Bund. Doch erkenn die Sklaven befreien der Zund, sein von dir.